1570 AM Laval.
CJLV 1570 Laval vous présente la seule émission francophone en Amérique du Nord consacrée à la lutte professionnelle. TOW Radio Show. Présentation de Pink Paradise et Oasis Technologies. Voici votre animateur, l'arbitre de cette émission, Patrice Maltais.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission de cette semaine, le TOW Radio Show, comme le disait l'interlocuteur pendant l'introduction, la seule émission francophone. Ça veut pas dire que mon français est parfait à 100%, mais quand même... C'est de bonne augure. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je pense que nous sommes rendus à la 18e édition du TOW Radio Show sur une séquence de 26 qu'on s'en va avec ça. Donc, c'est parti, mon kiki. Gros show ce soir. Écoutez, la semaine passée, on n'a pas bouclé la boucle concernant l'histoire de Samson. Sylvain Grenier qui lui a répondu via le téléphone. On l'a pas appelé, non, on a parlé à Sylvain Grenier au téléphone. Et puis on a décortiqué le shoot de Samson concernant la lutte au Québec également. Selon lui, qui savait très bien comment Sylvain Grenier avait pu se rendre aussi loin que ça dans le fabuleux monde de la WWE. Et puis Paul Leduc, qui était également pointé lors de la sortie de Samson, va nous parler ce soir. Également, on continue notre tour historique concernant les WrestleMania avec Bertrand Hébert. Ce soir, on parle de WrestleMania 7, 8 et 9. Également, le premier tirage d'une paire de billets pour l'événement de la WWE qui se déroulera le 16 mars prochain au Centre Bell à Montréal. Donc, on n'entend pas personne, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il y a un seul égo dans le studio, et puis non, c'est pas moi, c'est Pat Laprade. Salut Pat.
Salut Pat.
Ça va?
Ça va bien toi?
Ça va bien, merci. Pat va jouer deux rôles ce soir, c'est-à-dire le titre de chroniqueur, mais également le responsable... du World Wide Web.
Exactement, c'est moi qui va vous lire sur notre page Facebook au TOW Radio Show. Je prends la place de Patricia Molloy, comme dirait notre chère voix hors champ qui fait les ID. C'est vraiment une très belle voix de et j'adore la façon qu'il dit Patricia Molloy. Yeah. Je suis pas capable de le répéter. Alors, ça va être Pat Laprade ici au contrôle. Facebookois ce soir.
C'est Arcan, son nom de famille. C'est l'animateur du matin ici au 1570 AM. Regarde, on le voit là justement sur la pancarte. C'est l'autre Arcan.
Ah, c'est l'autre Arcan.
Super de bon bonhomme. Très joyeux de vivre.
On le remercie.
Écoute, Pat, t'as tellement manqué d'épisodes. T'as manqué la fois où ce que la WWE n'avait pas nommé une fois Twitter lors du Raw. Je sais pas si tu l'avais vu cet épisode-là. Il y a de ça, je pense, c'est deux ou trois semaines.
Écoute, non, Raw, je l'écoute, mais des fois, je l'écoute sur le fast-forward. Donc, je te dirais, j'ai pas toujours l'occasion et la chance d'entendre les commentaires, entre autres de Michael Cole ou les commentaires sur Twitter. Mais écoute, moi, Twitter, ça me dépasse la façon qu'ils prennent ça au sérieux. Alors, je dirais que ça me dérange pas trop de l'avoir manqué, celle-là.
C'était atroce, c'était hier soir, soit dit en passant, la sortie de Shawn Michaels. Je pense qu'il aurait dû se prendre un suppositoire deux heures avant l'émission parce qu'il avait tellement la voix rauque que ça en était désagréable.
Ben, tu vois, moi, c'est le seul segment que j'ai vraiment aimé dans le show.
T'as pas accroché sur la voix à Shawn Michaels?
Pas plus. Moi, je me suis dit qu'il essayait peut-être de pousser un peu trop. J'ai pas vraiment accroché. J'ai plus essayé de suivre l'angle et de suivre ce qu'il disait. Mais je te dirais que c'était beaucoup mieux que l'épisode, comme mon cousin dirait, des feux de l'amour.
Ton cousin, le futur journaliste, c'est ça?
Exactement. étudiant en communication à l'UQAM.
C'est quoi son nom? Alex Laprade?
Oh non, c'est même pas un Laprade, non. C'est mieux que ça, c'est un Langevin. Maxime Langevin, non. Un cousin, Patrice, là, ça a pas toujours le même nom de famille.
Je sais.
Je t'apprends quelque chose, là, ce soir.
Je sais, écoute, on est 26 cousins-cousines dans ma parenté à moi. Il y a Bello, Tremblay, Lévesque, Smith, Maltais, non, ça c'est moi, c'est déjà mon nom. Bref, Garneau également. Je salue mes cousines qui m'ont dit qu'ils m'aimaient aujourd'hui sur Facebook. Je suis très, très, très content et ému.
Auditeur de lutte, restez là. On va parler de lutte dans pas long. On va finir la famille à Patrice avant.
C'est déjà fait. Même ma mère, j'appelle tantôt ma mère pour lui dire « Mon show est à 9h, hein? » Elle dit « Ouais, mais mon émission est à 9h. »
C'est une Maltais, ta mère?
Non, alors.
Alors, OK. Ouais.
Je salue ma parenté, il y a des alors. Mais c'est ça, ma mère, elle aime mieux écouter son émission de TV qu'écouter son propre fils en direct à la radio. Elle est fière.
La promesse, c'est bon.
Ouais, je pense que c'est la promesse. c'est pas haut aujourd'hui?
C'est à 8h.
C'est à 8h, ah, OK. Hey, plusieurs choses qui s'est déroulé au cours des dernières 24 heures. Et puis, je vous dirais que pour la première fois en 18 émissions, c'est la TNA qui fait les manchettes. Donc, on perdra pas de temps. Tout de suite, le bulletin de nouvelles. Eh bien, c'est à 16h29 aujourd'hui que la présidente de la TNA, Dixie Carter, a annoncé que la TNA et Vince Russo sont venus à terme pour la suite de la participation de Russo en tant que chef de l'équipe.
Thank God!
Merci de pas m'interrompre. Là, tu vois comment c'est mal imprimé. J'ai besoin d'une concentration exceptionnelle. On va revenir tout à l'heure.
Ça marche.
De toute façon. Selon Carter, bien, la séparation est amicale et professionnelle, évidemment, si on le sait. La compagnie qui a été chanceuse d'avoir dans son équipe une personne aussi dévouée que Russo pendant tant d'années, il lui souhaite tout le succès qu'il mérite pour d'autres projets. Lors de l'enregistrement d'Impact Wrestling, qui s'est déroulé hier soir, également ce soir, soit dit en passant, il n'y a eu aucun changement dans la direction des angles maintenant que Russo est parti. Certains scripts d'Impact ont été peaufinés hier, ce qui est tout à fait normal, mais la TNA va suivre de l'avant son plan qui a été créé en octobre dernier. En ce qui concerne Jesse Sorensen, qui a subi une fracture de la vertèbre C1, le sentiment de plusieurs est qu'il a espoir concernant ce dernier, qu'il puisse se rétablir complètement de sa blessure subite dimanche lors de l'événement de la TNA Against All Odds qui était en direct sur la télé à la carte. Pour ceux qui l'ont pas vu, on a mis des vidéos justement sur la page TOW Radio Show. Sorensen s'est complètement écrasé suite à un très mauvais moonsault de la part de Zema Yan. Je vous dirais que moi puis Pat tout à l'heure, on essaie de l'analyser. Puis c'est un moonsault à moitié, donc on va dire une demi-lune. Pour ce qui est des codes d'écoute de l'émission Raw Super Show de hier, il y a une moyenne de 4 120 000 personnes ont regardé l'émission. La semaine passée, on parlait de 4 620 000 téléspectateurs. Et si nous creusons un petit peu plus loin, eh bien c'était 5 220 000 téléspectateurs pour la semaine suivant le Rumble. En ce qui concerne SmackDown, bien, l'épisode du 10 février a marqué un pointage de 2,17, ce qui équivaut à 3 261 000 téléspectateurs. La semaine d'avant, 2,19 pour 3 194 000 personnes qui ont regardé SmackDown. Et puis aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du retour de The Rock à la WWE. Il fait même son arrivée dans la Twittosphère. Il y a plus de 2 millions de personnes qui suivent The Rock via Twitter, dont Pat Laprade. Alors voilà pour ce qui est des nouvelles de concernant le fabuleux monde de la lutte du côté professionnel américain. Je disais Pat Laprade. Moi, j'ai pas de compte Twitter, donc... Je peux pas suivre The Rock, mais j'ai jamais accroché sur Twitter, donc ça sera pas tout de suite. Donc, Patrick, tu m'as interrompu tout à l'heure concernant Vince Russo. Tu as dit « Thank God ». Et puis, selon Dixie Carter, il faisait un excellent travail. Ce que j'ai jamais compris, je me suis toujours dit, quand j'écoutais un film de série B, comment ça peut être aussi mauvais. Puis, quand je regarde les épisodes de TNA, Impact Wrestling, je me dis « Voyons donc, qui approuve ça ?» Est-ce qu'ils fument du crack? Est-ce qu'ils sont vraiment désillusionnés? Est-ce que... Je sais pas.
Vince Russo, c'est comme un chat. Avec un chat, on dit qu'il a 7 vies. C'est ça, 7 vies ou 9 vies? Ah, il y a bien des vies, OK? Et Vince Russo vit sur une idée qu'il y a eu il y a maintenant, mon Dieu, 15 ans. Et Vince Russo, OK, on l'a toujours mis, son idée, en fait, là, c'est lui, il considère que l'air attitude lui est due. Que c'est lui qui a eu l'idée d'avoir ce virage-là, OK, d'avoir ce virage à commencer avec la D-Generation X. Et bon, Vince Russo, je pense qu'il s'en met un peu trop en dessous de la cravate qu'il devrait. Vince Russo à la WWF dans le temps était peut-être un gars avec des bonnes idées, mais qui avait du monde en arrière de lui pour filtrer ces idées-là. Dont Vince McMahon qui à l'époque était de loin supérieur à ce qui peut être aujourd'hui comme décision en termes de décision qu'il pouvait prendre, et filtrer les décisions de Vince Russo, c'était en tout cas j'étais pas là, mais ça devait être une job à temps plein, et on l'a vu ça quand Vince Russo est parti pour la WCW fin des années 90, début des années 2000, où ce que là il y avait plus personne en arrière de lui pour justement dire non regarde ça là, c'est tout
mais
à fait ridicule.
C'est ça qui me fait me gratter la tête, parce que je me dis avec la panoplie de producteurs, de conseillers, j'ai la misère à concevoir qu'ils ont laissé aller la balle dans la main d'un seul homme. Lorsqu'Eric Bishop était vice-président exécutif.
Ouais, mais à un moment donné, Eric Bischoff, je pense...
Il s'est fait tasser, puis ils ont mis, justement, Vince Russo à la tête.
Exactement, puis Bischoff est revenu par la suite, et on a essayé de travailler avec Vince Russo, puis écoute, ça a été le lamentable. Déjà que la WCW, ça levait pas fort à ce moment-là, la part de Vince Russo a vraiment pas aidé. Écoute, à tel point qu'à un moment donné, il y a des gens qui pensaient que c'était la WWF qui avait envoyé Vince Russo et son bon ami Ed Ferreira à la WCW pour planter le clou dans le cercueil, là.
Ouais,
que c'était voulu comme ça. C'était mauvais à ce point-là. Et Vince Russo a toujours eu une carrière basée sur l'attitude, l'air attitude de la WWF. Et écoute, il se fait congédier de TNA, je pense que c'est il se fait congédier. En fait, il s'est pas fait congédier en passant. Pourquoi ça a été si long entre le moment où on a annoncé, là, où ça s'est sorti sur le web il y a quelques jours, que Vince Russo n'était plus...
Ça a sorti dimanche.
Que Vince Russo n'était plus avec TNA. Pourquoi ça a été si long? Parce que Vince Russo, en fait, n'a pas été congédié. Vince Russo a voulu partir, Vince Russo a voulu démissionner, et Dixie Carter, qui l'a toujours backé, a voulu le retenir. Et entre dimanche et aujourd'hui, ont essayé de retenir Vince Russo à la TNA. Aussi incroyable que ça puisse paraître, là, la TNA est pas en piteux état pour rien, là.
Mais...
Et finalement, ben, j'imagine que Vince Russo a gagné son point de vouloir quand même quitter, puis Dixie lui a pas... Bon, à un moment donné, il a dû dire, bon, OK, si tu veux vraiment y aller, on va te laisser aller. C'est pour ça que quand on lit la nouvelle, ça dit pas TNA a congédié, ça dit bien que les deux ont part ways, hein, mm-hmm. Que les deux on se sont laissés à l'amiable. Et écoute, c'est pour le plus grand bénéfice de la TNA, parce que je pense que si c'est David Lagana qui prend le show en charge avec Bruce Prichard, ça a une bonne chance de remonter tranquillement. Et je dis bien une bonne chance. Est-ce que ça va se concrétiser?
Ça reste à voir. Comme j'ai dit lors de mon bulletin de nouvelles, ils vont de l'avant avec leur storyline qui a été construite à partir du mois d'octobre. Donc, peut-être à la fin de la saison, ça va changer, mais bon, on verra.
Ça peut changer plus rapidement aussi s'ils voient que finalement, ça a aucun bon sens.
C'est ça, on va voir. De toute façon, hein, le secret de la patience, c'est de faire autre chose en attendant. C'est ce qu'on va faire. On va aller à la pub et puis au retour, on parle avec Paul Leduc, qui va répondre aux allégations de Samson.
Durant la pause, ceux qui veulent aller sur notre page Facebook, on a notre collaborateur Bertrand Hébert qui poste plein de liens sur les sujets qu'on parle, dont Vince Russo en ce moment. Allez voir ça, c'est intéressant.
sur les ondes de CJLV 1570. C'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Molloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
Avant, mon frère, j'en avais peur. Avant, mon frère, il était pas bien. Vraiment pas bien. Avant, mon frère, c'était un toxicomane.
Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Si vous connaissez quelqu'un avec un problème de toxicomanie, aidez-le à faire les premiers pas. Téléphonez au 514-939-0202. Portage, pour vaincre la toxicomanie.
Maintenant, mon frère, c'est vraiment mon frère. Maintenant, mon frère, j'en suis fière. Bravo, Jean-Thomas.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Auditeurs du 1570 AM, courez la chance de gagner des billets pour assister à l'événement de lutte WWE en route vers WrestleMania, qui aura lieu le 16 mars au Centre Bell. Voyez en action Chris Jericho, Dolph Ziggler, Big Show, Kane, John Cena, CM Punk et plusieurs autres. Billets à compter de 20$ au guichet du Centre Bell ou sur evenco.ca. Pour gagner une des 5 paires de billets, écoutez le TOW Radio Show les mardis entre 21h et 23h. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Hi, this is Crimson of TNA's Impact Wrestling. Get all the latest pro wrestling scoop by listening to TOW Radio every Tuesday night at 9 p.m. on AM 1570.
Je pense que c'était la meilleure chanson de rock. Ça, c'est Anthrax.
Oui,
dans
oui,
l'air
oui.
Attitude, parce oui, que oui, l'attitude oui. est de mise depuis une semaine ou deux. Salut, Paul.
Salut, Patrick.
Patrick, c'est l'autre.
Ah, Patrice.
Paul, t'as pas été indifférent à la sortie de Samson. T'as eu ton moment de gloire pendant, 22 secondes.
Ben, c'est parce que lui me connaissait, puis moi, j'ai aucune idée. Je connais pas ce nom-là. Ça me dit absolument rien. C'est qui, à quelle école de lutte qui est allé, ce gars-là?
C'est probablement Marc Le Drizzly qui l'a entraîné. Il est sorti en même temps que Don Payson et puis James Stone, Paul.
Ah, mais j'avais jamais entendu parler de lui. Ah, c'est un gars qui remplissait ses salles, quoi.
Je te dirais que c'est quelqu'un, c'est encore quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, qui avait une très bonne gimmick. Tu l'as probablement vu à la TOW, Paul. Il avait lutté contre Jay Lethal à la TOW à Charbonneau, puis il avait lutté le show d'après contre Jeremy Prophet. Il y avait une grosse corde, là, un peu comme le Hangman avait. Je suis sûr que tu l'as vu une fois ou deux, mais il a jamais lutté à la FLQ, je pense.
Non. Mais ce qui m'étonne de lui, c'est qu'il a l'air à me connaître personnellement parce qu'il dit que je suis une grande gueule.
Non, l'affaire, Paul.
C'est vrai que je suis une grande gueule, mais qu'est-ce que je dis dans ma gueule, c'est de l'expérience et puis des faits vécus, des Samson, puis des gars comme ça. Ça, c'est des frustrés. À un moment donné, qui ont eu une certaine attention quand ils ont lutté, puis là, ils ont pensé, ils ont parti sur un trip, ils ont pensé que... Mais ça, là, un talent, peu importe le nom, là, puis là, je vise pas personne, là, peu importe qui soit. Un talent, c'est un gars qui a de l'expérience et qui a un athlétisme qui se différencie des autres et puis qui remplit ta salle.
Paul.
Ça, c'est un talent. Puis ce talent-là, là, généralement, il ne dure pas longtemps dans le sol de glisse.
Paul.
Quand tu vas aller le chercher.
Paul, la raison de la sortie de Samson, est-ce que tu te rappelles la fois que Sylvain Grenier avait dit sur nos ondes qu'il n'y avait pas de bons lutteurs au Québec?
Ben, c'est...
Écoute. Attends.
Ouais.
Et on avait fait une liste.
Oui.
Et puis, tu avais fait une sortie pendant la liste.
Oui.
Moi, je crois, en tout cas, que Samson s'est fié à l'épisode de la fameuse liste, parce que, soit dit en passant, l'épisode se fait télécharger encore. On est rendu à pas loin de 350 téléchargements, juste ce segment-là. Mmh. Et puis ça, je sais pas quoi qu'il pensait, mais bref, il t'a inclus là-dedans pendant les années 40, 50, 60. Tout à l'heure, quand on s'est parlé au téléphone, il t'a rappelé, il t'a remémoré l'attitude d'un certain lutteur québécois également.
Mmh.
C'était qui, cette personne-là?
Tu
m'as parlé d'un certain Jacques.
Ah, ben, c'était frustré. Parce que j'ai lu un certain livre, donc je pense qu'il a participé à la production. Et puis, quand que tu peux pas... Jacques a pensé à un moment donné qu'il était le seul à pouvoir faire revivre la lutte au Québec. Et vu qu'il n'a pas été capable et puis que ça s'en allait, n'oubliez pas une affaire, là. Il a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, Jacques Rougeau, avec ses shows-là. C'est mettre du monde dans une place, là, puis compter la caisse après, c'est deux affaires complètement différentes. Et quand il a vu ça, son livre, c'est un livre de frustration. C'est pour mettre un clou dans un cercueil. Dans son livre, même les dates de des personnes qui sont décédées, c'est même pas les bonnes dates.
C'est vrai, Pat.
J'ai jamais vu une affaire aussi mal faite, mais par contre, aussi bien présentée. Il a dû endormir un investisseur quelconque qui a mis beaucoup, beaucoup d'argent, parce que j'ai été pendant 15 ans chez Québécois, puis je sais comment ça coûte un livre comme ça, là. Papier glacé, 20 gauges, puis hardcover, puis tout, là. Ça coûte...
Pleine couleur.
Ça, c'est une affaire que tu vas ramasser cet été au flea market de Saint-Eustache, là, tu vas le ramasser à une pièce, deux pièces.
Mais là, la version anglophone va sortir bientôt, selon Jacques. Ça me dérange pas, les historiens les plus érudits en matière de lutte parlent anglais, donc on va voir ce qu'eux en pensent. Mais Paul, pour te dire, d'après moi, Samson te connaît pas tant que ça, parce qu'il dit t'as-tu fait de l'Alzheimer. Et écoute, moi puis Paul, moi puis toi, Paul, on a déjà eu nos démêlés, mais s'il y a une chose que tu fais pas, c'est de l'Alzheimer, par contre. Et en passant, Patrice et Paul, c'est Cobra qui a entraîné Samson à l'école de la NCW, Bertrand Hébert, qui nous le fait savoir.
Je l'ai pas buté. Probablement que je me serais dérangé si il m'aurait dit hey, Samson était en finale. Et puis ils ont refusé du monde à l'NC. Là, je sois assuré que j'aurais pris l'information nécessaire. Parce que à notre époque, il y avait deux choses qu'on s'informait. Quelqu'un nous arrivait et il disait hey, c'est à plein hier à Rivière-du-Loup. La question qui sortait du vestiaire, qui était en finale? Qui était là comme attraction? Parce que ça, c'est un indice qui rend pas. Mais écoute, au Québec, il y a tellement de travail à faire. Là. Je suis sûr, si on poserait la question à Samson, là, quelle différence qu'il y a entre un promoteur, un scripteur et un lutteur? Puis là, je les place par ordre. Là. Un promoteur, la deuxième personne, c'est le scripteur, et la troisième personne, c'est le lutteur. Ah. Le lutteur, il faut qu'il prouve au scripteur qu'il avait raison de l'inscrire dans un script. Puis le scripteur, lui, il faut qu'il prouve au promoteur qu'il a bien fait d'investir de l'argent dans ce gars-là.
Et à mon avis, Paul, le troisième devrait jamais être deuxième et premier là-dedans.
Non, c'est ça. Je le place là par ordre d'importance.
Paul, Samson, pour te dire, écoute, à sa défense, je pense pas qu'il y a personne au Québec qui attire vraiment.
Ah non, okay? Il y en a pas.
Par contre, Samson à la NCW a vraiment été, en anglais, on dirait un hot commodity, ok? Il a vraiment été un de ceux.
T'as dit, il a été, justement, tu parles dans le passé.
Ben, il a été parce que, effectivement, je parle dans le passé parce qu'il y a eu une longue pause, Samson. Il est revenu en 2011. Il a connu une fin d'année 2011. Correct. Je pense que c'est jamais revenu comme c'était avant, mais je pense que ce gars-là a vraiment du talent et je pense qu'il veut juste pas exploiter davantage la lutte professionnelle et sortir. Moi, personnellement, au moment où je luttais contre Jay Lethal à la TOW, je crois que ce gars-là avait le potentiel de sortir du Québec. Paul, tu l'as peut-être tu t'en rappelles pas, moi-même, je m'en rappelais pas, mais on a Georges Morillas qui nous dit là sur Facebook qu'il a fait, il a lutté avec Lufisto au deuxième tournoi Amazon et Titan de la ALF. Donc, tu l'as probablement déjà vu. Peut-être que, genre, on s'en rappelle pas, puis ça arrive aussi. Moi-même, je me souvenais pas qu'il avait fait équipe avec Lufisto à ce moment-là. Mais Samson, à un moment donné, a vraiment été un lutteur bien coté. Et la fin de l'année 2011 nous a rappelé un peu ce lutteur-là.
Est-ce que c'est Lufisto qui était son mentor, quoi?
Non, pas du tout. À ce moment-là, il cherchait un gars plus over pour lutter avec la fille qui était la plus over. Je pense que c'est Samson qui avait été le choix.
Ah, c'est ça qui était un mentor.
Je veux savoir une affaire, Paul. Est-ce que c'est la première fois que tu as affaire à dealer avec quelqu'un de la nouvelle génération qui essaie de te remettre à ta place comme quoi que t'es en tort?
Patrice, si tu saurais, tu demandes à l'autre Patrick là, comment que j'ai essayé de unifier ça, la nouvelle génération avec la vieille génération. Et puis, j'ai jamais été capable. Tu lui parles, ils te disent oui, puis ils arrivent backstage, puis ils te font tout ce que t'attends d'eux autres. Ça va prendre une espèce de scripteur, mais qui est chien. J'en ai eu des bons scripteurs. Le meilleur au Québec, là, scripteur, là, je dis pas ça parce que je sais qu'il est à l'écoute, c'est Bertrand Hébert. Mais j'ai eu aussi à la FLQ, des gars comme Philippe Leclerc, Big Show. Mm-hmm. Puis j'ai eu un gars super intelligent qui pouvait te faire monter une foule sans cracher, puis sans picher des chaises, puis sans picher de l'eau
au spectateur
qui faisait Hugo Roy. Mm-hmm. Il était épouvantable.
C'est vrai.
Il était-tu bon?
Écoute, ceux qui écoutent l'émission puis qui me connaissent personnellement, si je dis qu'Hugo Roy était bon, c'est parce qu'il devait vraiment être bon.
Ah non, il était bon.
Écoute-le. Paul, moi, je suis pas au courant de la fin de ta FLQ. Qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté?
Ben, j'ai arrêté. Sais-tu, moi, j'ai été éduqué par M. Pierre Palladeau.
OK. Puis là, tes lutteurs, ils sont devenus syndiqués, fait qu'ils te mettent la clé dans la porte.
Et voilà.
Mais
c'est... Arrive, ils mangent dans ta main, puis 6 mois après, ils veulent te dire quoi faire.
C'est...
Et quand tu commences à perdre de l'argent, veux-tu que je te dise la vérité?
Oui, s'il vous plaît.
Je vais te dire la vérité, pourquoi j'ai formé ça. La AF, elle perd beaucoup d'argent. Parce que des shows à AF, ça coûte très cher. Transport, l'autobus, ça, les filles qui venaient des États-Unis. La AF, là, c'était un peu de votre système, là. On faisait venir des outsiders, tout ça. Mais les outsiders qui sont bien, bien hot, là, il n'y a jamais une maudite qui a mis une fille du Québec over. Comment-tu? Et ça, tu peux plus aujourd'hui tourner à l'entour où ce que le gars, il est champion, il est promoteur, la fédération, c'est lui qui est président de la fédération. Ça n'existe plus, ça.
Parce que, Paul, tu disais tout à l'heure, ça prendrait un scripteur qui est chien, mais est-ce que, justement, le lutteur avec l'attitude va accepter de se coucher avec ce que le scripteur va lui dire?
C'est pas un choix.
Ça, tu lui dis, prends ton sac. Je l'ai fait, moi. J'ai dit à Tank, une fois, là, parce qu'il voulait pas mettre un gars au vœu, j'ai dit, prends ton sac, puis, en bon Canadien, envoie-le fly.
Sors du site. Mais Paul, tu parles, Patrice te parlait de tes dernières années à la FLQ, mais tantôt, tu parlais que tu avais essayé d'associer un peu l'ancien temps et le nouveau temps. Et moi, si je me souviens bien, avant que tu partes la FLQ, au tout début, en 2000, tu avais justement essayé de convaincre les différents promoteurs qu'il y avait à ce moment-là de s'associer, puis justement d'essayer de relancer la lutte. Puis je me trompe pas, c'était qui le seul qui t'avait répondu dans les envois que tu avais fait?
Le seul qui m'avait répondu, c'était Bertrand Hébert. Les autres m'ont menacé. J'ai eu toutes sortes de... J'élaborerai pas là-dessus, là. J'ai eu toutes sortes de menaces, toutes sortes de réponses niaiseuses. Parce qu'autrefois, là, M. Maltais, c'est que chaque fédération au Québec avait sa clique, puis son lutteur n'avait pas le droit d'aller lutter dans une autre fédération. Et moi, je me suis élevé contre ça pour la bonne et simple raison. Est-ce que tu peux faire un joueur de hockey si tu patines une fois par mois? Non. Alors, c'est le plus souvent possible, faut que tu mettes les patins. Puis c'est la même chose pour un lutteur. Le plus souvent possible, faut que tu montes dans un ring. Ah, puis là, oublie pas, il n'y a pas personne de payer là-dedans. Là. Et puis, c'était défendu. S'il pognait à aller lutter pour une autre fédération, ben, il te mettait les arts. À mon époque, là, dans le temps du Saint-Jean-Baptiste avec les Pat Patterson et puis Ross, les frères, les Garvin, puis tout ça. À mon époque, là, on luttait 4 à 5, 6, des fois même 7 fois par semaine. On luttait au centre Saint-Jean-Baptiste, on allait lutter à Plessis, on allait lutter à Palais, on allait lutter sur Bois-Saint-Joseph et Saint-Dominique, on allait lutter au Camp-Pigeon. On faisait 5 à 6 places par semaine réguliers. Et jamais personne, jamais que Pat Gérard est venu et il dit: tu vas lutter à Liège, je ne dois rester. Jamais. Le gars qui en profitait le plus, c'était lui, Pat. Parce qu'on prenait de l'expérience, puis vite, puis là, on se démarquait des autres. Et puis, si tu regardes ça aujourd'hui avec un recul, quand tu te démarques comme ça, tu as beaucoup plus de chances de faire carrière. Il y en a plusieurs qui ont fait carrière. Mais ceux qui venaient là, c'était une fois, ils te voyaient une fois, t'étais un mois sans revoir, puis l'autre. Ils ont pas fait de carrière. Ceux que je te parle, là, hey, Pat Patterson, c'est en allé aux États-Unis à 17 ans, et pas encore 18 ans, là.
Mais justement, Paul.
Garvin, c'était la même chose, il avait 17 ans, là.
Mais justement, Paul, tu parles qu'il faut lutter souvent.
Moi, je me suis allé au Mexique, là. En 1900. Voilà le faire, hein? Sais-tu comment que j'ai payé mon voyage pour aller au Mexique?
T'as vendu du pot.
Le promoteur là-bas, il ne me connaissait pas, là. Alors, il fallait que je m'arrête mon billet d'avion puis tout ça, là. Je faisais évidence le vendredi et je ramassais les bouteilles puis je vendais ça puis j'ai ramassé. Quand j'en ai eu assez, j'ai dit à Chinley, appelle le Terrot. j'ai l'argent de mon billet, puis je vais avoir un starting date. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé au Mexique.
Ben Paul, justement, tu parlais qu'il faut lutter souvent pour s'améliorer, puis c'est à peu près la seule façon. Sylvain Grenier est avec, vient d'arriver en onde, puis je suis curieux de savoir, Sylvain, toi, justement, est-ce qu'à tes débuts, entre autres, quand tu étais à la OVW et tout ça pour la WWE, est-ce que lutter souvent, justement, tu es d'accord avec ce que Paul dit, est-ce que c'est la seule façon vraiment d'y arriver?
C'est du 16 jours sur 7. Si tu veux devenir professionnel dans quelque chose, faut que tu le fasses un milliard de fois. Paul a tout à fait raison. En passant, salut Paul.
Allô, s'il te plaît.
Mais moi, j'ai une question pour toi, papa. J'écoutais qu'est-ce que tu disais à tous. Puis, dans ton temps, dans le temps de loisir chez Saint-Jean-Baptiste, avec les Garvin, les Patterson, combien de promotions ou de fédérations qu'il y avait dans ce temps-là au Québec?
Au Québec, à Montréal, les alentours, il devait en avoir 7-8 à peu près.
OK. 7-8 comparativement à 70-80 présentement?
Pardon?
7-8 bonnes? Comment qu'il y en avait des potables?
Ah non, on regardait pas. On regardait pas. Nous autres, notre pire, c'était d'avoir qu'il y avait un ring et tout ça. Comment c'était des croches et tout ça? C'est que... De toute façon, on luttait tellement souvent, quand on passait à une place, c'est sûr qu'ils voulaient nous revoir.
Ouais.
Parce qu'on se démarquait des autres, là. Ouais.
Mais à 7-8 fédérations, Paul, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Oui. T'as pas mal ce qui. Tu sais, tout le monde s'entraîne un peu dans le même bassin. Tu luttes contre les mêmes gars, contre des bons gars à chaque fois. Tu t'améliores. Tandis que là, on l'a dit à peu près, entre 10 et 20. Talents au Québec qui sont potentiellement qui pourraient aller plus loin s'ils voudraient.
Oui.
Mais ces gars-là, ils luttent jamais un contre l'autre ou presque. Ils luttent tout le temps contre des gens bons.
Ben oui.
Fait que c'est dur de s'améliorer.
À 20 ou 25 promotions.
C'est le seul problème. Écoute, on parle de Gomez puis des Canadiens. Ouais. Le hockey, c'est dilué. Ben au Québec, c'est ça le problème aussi.
Oui. C'est. Tu peux pas t'améliorer et si tu luttes tout le temps contre le même gars. Je détestais, quand j'étais petit cul, là, je détestais ça, lutter contre le même, là, disant je ferais pas des runs, des fois, t'as haut 2-3, parce que les autres aussi, des autres fédérations, ils voyageaient dans les autres fédérations. Mais on détestait ça, là.
En terminant, Paul, en terminant ton petit conseil à Samson, qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui?
Ben, lui dire qu'il mette ses mâchoires au neutre et puis qu'il arrête d'être frustré. Parce que c'est un geste de gars frustré, ça. T'sais? Et puis ça, ben, ça te mène pas à nulle part. T'as du temps rough d'investir quand t'es frustré. Ça, je peux te dire ça. Moi, ma force... Moi, j'ai toujours été un poilu junior, là. Mais j'ai vite compris que ça me prenait un gros poids pour pouvoir aller plus loin. Et c'est là que je suis allé chercher Joe Leduc. Mais j'étais le gars du vestiaire. Joe avait plus de misère d'un vestiaire que moi. Mais moi, tout le monde me marche. Ça serait dans ce road.
Toi, t'étais bon dans la politique.
T'étais un politicien, Paul.
Ben, je suis pas j'étais un politicien. Mais.
Dis pas non.
J'ai toujours été bien traité, moi. Moi, j'étais un béni des dieux, là, parce qu'il y en aura, il y en avait beaucoup qui auraient voulu me voir à ma place.
Mais
ma force, c'était pas nécessairement moi. C'était Joe Leduc. Je contrôlais Joe, c'est Booker. S'il était pas content contre le Booker, je m'assoyais avec, très patient, je lui expliquais le purpose. Parce que le Booker, il a pas trop le temps de te dire c'est quoi qui s'en vient, puis c'est aussi pourquoi qu'il pose ce geste-là. Là. Il a pas le temps d'abord de s'arrêter à ces affaires-là. Et puis là, ben moi, c'était ma force de m'asseoir avec Joe, puis il fait comprendre. De toute façon, quand tu ne suis pas la règle du Booker, il va t'avoir dans le détour. Il va t'avoir.
C'est sûr.
Là, ça va faire mal.
C'est bon, Paul. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec
merci,
nous
Paul.
Pour ce soir.
Merci,
on s'en parle.
Bonne soirée.
Bonne chance.
Merci.
À la prochaine.
Bye. Toujours intéressant, hein, parler avec Paul. Bref, je voulais avoir sa réponse à Samson. Samson qui a parlé de Paul 40 secondes, et puis Paul, il a pris quasiment une demi-heure.
mais moi, qu'est-ce que je vous écoutais en m'en venant, les boys, après mon souper de Valentin, avec mon boucher, c'est original, hein.
Il y a Patricia qui est en souper de Valentin.
Ah oui? Bon, ben, on y
Blondin aussi, mais c'est pas sa blonde.
Si je faisais une vidéo YouTube, je te ferais un clin d'œil en ce moment.
Non, mais je vous écoutais parler de Samson, puis c'est vrai qu'il est bon, Samson.
Ben oui.
Puis là, j'ai appris qu'il était entraîné par Cobra. Est-ce qu'il a fait de l'overtime avec Cobra?
Non, je pense qu'il a fait de l'overtime avec Marc le Grizzly. Et Marc le Grizzly l'a probablement peaufiné.
Ah ouais, je pensais que c'est Cobra qui l'avait peaufiné dans la petite salle en haut à NCW.
Ah, on sait pas. Ben, c'est ce qu'on sait. En tout cas, je sais pas si comme toi, t'as eu une petite tape à bonne place. Bref. Sylvain, écoute, faut aller à la pause.
Une pause?
On va aller à la pause publicitaire. On est busted.
On a-tu des commanditaires ou...
Ben oui, on a Oasis Technologies.
Ah ben ouais, t'en es powerful.
On a même un concours aujourd'hui. Hein.
Pour les billets?
Pour les billets, oui. Premier tirage. J'ai écouté le TOW Radio Show. Donc, Sylvain a mis un point d'interrogation. C'est très bon. Pat attend au retour de la pause pour parler de Facebook.
Excellent.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Molloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
Avant, mon frère, j'en avais peur. Avant, mon frère, il était pas bien. Vraiment pas bien. Avant, mon frère, c'était un toxicomane.
Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Si vous connaissez quelqu'un avec un problème de toxicomanie, aidez-le à faire les premiers pas. Téléphonez au 514-939-0202. Portage pour vaincre la toxicomanie.
Maintenant, mon frère, c'est vraiment mon frère. Maintenant, mon frère, j'en suis fière. Bravo, Jean-Thomas.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Auditeurs du 1570 AM, courez la chance de gagner des billets pour assister à l'événement de lutte WWE en route vers WrestleMania, qui aura lieu le 16 mars au Centre Bell. Voyez en action Chris Jericho, Dolph Ziggler, Big Show, Kane, John Cena, CM Punk et plusieurs autres. Billets à compter de 20$ au guichet du Centre Bell ou sur evenco.ca. Pour gagner une des 5 paires de billets, écoutez le TOW Radio Show les mardis entre 21h et 23h. Soyez-y, mesdames, messieurs.
L'épilation définitive à la lumière pulsée de Palomar d'Oasis Technology vous permet enfin de dire adieu aux poils.
Chez Oasis Technology, une variété d'options s'offre à vous, hommes ou femmes.
Tout type de poils, tout type de peau et sur toutes les régions du corps, utilisez l'épilation à la lumière pulsée de façon sécuritaire et sans douleur.
Informez-vous sur nos spéciaux d'après-fête et vous pourriez recevoir votre premier traitement des aisselles gratuitement. Oasis Technology, c'est plus de 50 points de service au Québec. 1-877-EPILATION, 1-877-374-5284. Ou visitez filetlespoils.ca.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
This is the phenomenal one, AJ Styles, and you're listening to the TOW Radio Show.
Pat, qu'est-ce qui se passe du côté de la page TOW Radio Show sur Facebook?
Ben écoute, suite au bon commentaire de Paul Leduc sur Bertrand Hébert, Bertrand a mis sur YouTube, a mis le lien YouTube de quelques angles qu'il avait fait à l'NCW dans le temps. Alors, ceux qui sont intéressés de voir le travail que Bertrand pouvait faire dans certaines histoires, là, il a mis une histoire presque au complet avec différents vidéos YouTube. Alors, très intéressant. Et je conseille à tout le monde d'aller voir ça. On parle aussi beaucoup, on félicite Bertrand et on parle de ses... de sa carrière de scripteur ici au Québec. Et c'est pas mal ça, mon Patrice. C'est pas mal ce qu'on retrouve présentement.
Bon, OK. Patrick est arrivé avec un sujet intéressant tout à l'heure pendant que tu faisais une bouteille de 7-Up sur la feuille, Sylvain. Il y a un incident qui s'est produit à la CTW vendredi dernier. On en a parlé rapidement.
C'est quelqu'un hier qui a fait un beau move de lutte?
C'est pas un beau move de lutte, sinon je t'aurais dit « wow ». C'est okay. Plutôt des histoires de blade job. Bref, je vais laisser Patrick en parler parce que le faux français en a parlé hier à l'école de lutte. Puis Pat est arrivé avec ça tantôt.
Ben écoutez, moi, c'est l'histoire m'a été contée par un de ceux qui était présent justement au show la semaine dernière. Ce qui est arrivé, c'est le match avant la demi-finale. Il y a un match par équipe où les quatre lutteurs décident de blader.
OK, décident
de saigner. C'est un match de chaîne. Les quatre décident de saigner. Il y en a un des quatre qui, pour bléder plus, pour saigner plus...
Et de l'aspirine.
Et du Red Bull. OK? Il paraît que ça stimule encore plus, là. Bon, bref...
Mais on s'entend que c'est un gars qui va au gym à tous les jours, qui est en forme,
oui,
qui ne pèse pas 145 livres.
Ben, c'est un gars qui est en shape, par contre. Ah, je dois dire, il n'est pas en shape comme toi, là, mais... Il n'est pas bedonnant rien, OK? Et là, évidemment, il y a du sang partout. Il y a du sang partout dans le ring, partout sur les câbles, sur le plancher. Paraît-il qu'il y a même des fans qui ont reçu du sang dessus. À la fin du match, les deux gars qui luttent sur le match suivant font un match de soumission. Ils sont cédulés pour faire un match de soumission. Et un des deux va voir le promoteur. Promoteur qui était dans le match d'avant et qui a blédé lui aussi.
Des imbéciles, en passant.
Et va lui dire, no way, moi je fais pas le match. C'est pas vrai qu'un match de soumission qui est nécessairement beaucoup plus au plancher, c'est pas vrai que m'a roulé dans ce sang-là. Ça avait été nettoyé, mais en même temps, je veux dire, ça avait été nettoyé rapidement entre deux matchs. Il n'y avait pas eu une pause après. Ce genre de match-là, habituellement, tu vas le mettre avant l'intermission pour bien nettoyer.
Ça a été booké par un imbécile.
Ou en finale, ce qui aurait été l'idéal. Tu peux pas topper ça. Un match de soumission, à la base,
tu
peux pas topper ça. Bref, le gars décide de ne pas faire le match.
Parfait.
Le match ne se fait pas. Son adversaire est d'accord avec ça.
Ouais.
Il veut pas mettre sa santé en jeu dans ce match-là.
Ouais.
Et moi, écoute, personnellement, j'applaudis cet acte-là. Lui, par contre, s'est fait rabrouer par le promoteur qui en se faisant dire que il fuckait son show, en se faisant dire qu'il était là, il ruinait son show. Et le lendemain, il y a eu des messages sarcastiques à l'effet de dire, ben là, t'es mieux de dire à d'autres promotions que tu luttes pas quand il y a eu une blade
job. C'est quoi le nom de cet imbécile de promoteur-là? Parce que je l'appelle, là. Je sais pas c'est quoi son nom, mais écoute-moi, là, l'imbécile, là, qui blade devant 45 personnes, met ta santé en jeu pis celle des autres, c'est à cause du monde comme toi, mon imbécile de promoteur, lutteur, wannabe, qu'il y a du monde comme moi qui essaie de faire vivre la lutte, qui dépense des fortunes, pis on n'est pas capable à cause des imbéciles comme toi. Fait que j'espère te rencontrer, sûrement pas d'une école de lutte, parce que t'es un imbécile pis tu vas pas là. Te rencontrer dans la rue pis tu viens de me voir, hey, tu m'as traité d'imbécile pis j'aimerais ça te le dire d'en face.
Et moi, ce qui m'aberre le plus là-dedans, c'est qu'il a, vraiment, il y a eu un genre d'intimidation où il a voulu, écoute, il a carrément traité l'autre un peu le lutteur qui a refusé, c'est Rocky Stone.
Bravo Rocky Stone.
Entraîné par les frères Proulx à la ICW.
Parlez-moi d'un gars
Rocky Stone qui a refusé, et à quelque part, moi je trouve ça aberrant que le promoteur réagissent de cette façon-là.
C'est un imbécile, c'est pas un promoteur, c'est qualificatif. Après son nom, il y a imbécile dans le dictionnaire.
Parce que ça devrait être comme ça à la WWE, et au salaire que ces gars-là sont payés, au salaire, entre guillemets, et j'en mets beaucoup de guillemets, hein, parce qu'on le sait,
là,
que ces gars-là, ils ont eu zéro.
Là.
Et que la personne prenne la peine de penser à sa santé, à lui, à la santé de son adversaire et à la santé de la gérante qui l'aurait accompagné, ben moi, bravo, et ce gars-là ne devrait pas se faire rabrouer et ne devrait pas avoir une mauvaise réputation, au contraire.
Ça revient à ce que Paul disait tout à l'heure, hein, lorsque le booker décide de quelque chose et puis qu'un lutteur refuse de le faire, il se fait remettre à sa place, puis c'était bien le cas.
Oui, mais à ta minute.
Non, mais je veux dire.
Paul disait.
Je veux dire que ça revient à ça aussi.
Pour des promotions qui, qui ont du sens. On parle pas de la CTW qui a aucun sens, que j'irai jamais là, qui me donne 100 000 piastres, j'irai jamais là. Là, je sais qu'il y a jamais aucun de mes élèves qui va aller là. Ça va être dit à mon prochain coach. Je suis bien
demain,
content.
Demain.
Qu'il n'y a aucun élève. On a un séminaire jeudi à l'école avec des gens de Sorel, une vingtaine qui s'en vient. Je vais leur dire de jamais aller à la CTW. Je vais, à toute fois que je vais voir un lutteur, je vais dire n'allez jamais à la CTW. À chaque fois que je vais faire un fan, n'allez jamais à la CTW. C'est des imbéciles. C'est dangereux. Il y a du sang partout.
À quelque part que les quatre gars s'entendent pour faire un match de chaîne et de bléder, à la limite, c'est de leur affaire à eux. OK? À la limite. OK? Mais, quand t'obliges quelqu'un d'autre à faire un match dans le même sens, et en plus, c'est que les personnes qui ont, en fait, eux devaient faire la demi-finale, le match de soumission. Fait qu'évidemment, le match n'a pas eu lieu, donc, ils sont passés directement à la finale. Et ça a été confirmé par les gens dans la finale que, même si ça avait été essuyé, qu'il y avait encore du sang qui sortait, c'est normal. En dedans,
là,
tu n'as pas le temps de nettoyer.
Là, je te gage 100$ en faire jeu de mots. Qui. Il a pas envoyé son tapis laver au nettoyeur, là.
C'est exactement ce que je pense.
Il a mis du Febreze, puis il a passé le balai, là, l'imbécile.
J'ai
là.
Tellement vu de promotions, dont la NCW, qui, quand arrivait un match où il savait qu'il était pas avoir du sang...
Il y avait une toile supplémentaire. Dans toute promotion qui se respecte.
Tu sais, au pays des câbles, ça s'est subi un plancher, mais un matelas, c'est sûr que c'est plus difficile. Bref. Hey,
c'est quoi le mot du jour?
Le mot du jour.
C'est imbécile.
Imbécile. Qu'est-ce que t'allais dire? C'était
bravo. Ah, ça, c'était bravo.
Sylvain, dans ta carrière à WWE, est-ce que t'as déjà refusé de faire un angle ou quand t'avais un combat,
oui.
Est-ce que tu dis au booker, non, moi, je vais pas là?
Oui, pis c'était même pas au booker, c'était à Vince.
À Vince.
Dans le temps du modèle, parce que les Américains ont une vision très différente. En tout cas, Vince avait une vision très différente de ce que je voulais faire avec le personnage. Lui, il voyait quelque chose plus genre Rick Martel avec des airs sans être féminin, pas comme Rico, mais un petit peu féminé. Puis moi, j'y ai dit que dans la vraie vie que j'ai vécue comme mannequin à l'international, en Europe, voyager, c'est pas ça du tout. C'est du glamour, c'est du sex appeal, c'est de la cockiness, c'est du être flamboyant, pis c'est ça que je voulais apporter. Pis je pense que c'est ce que j'avais réussi à faire traverser, mais lui voyait quelque chose de complètement différent, c'était peut-être pour son plaisir personnel, puis j'ai dit non à son idée. Puis c'est pour ça que j'ai été sur les lignes de côté pendant 2-3 mois, jusqu'à temps qu'il lui-même revienne avec l'idée de l'ambassadeur.
Ta gimmick de mannequin, t'as fait ça à la
SmackDown.
Quelqu'un a fait revivre la SCW? Non?
Non, c'était à SmackDown.
À SmackDown?
Oui. La CW, c'est quand j'ai eu... J'étais invaincu à la CW, by the way. Un match avec René Dupré, le retour de la résistance. Puis le lendemain, René se faisait...
Il a fait de ses services.
Un genre d'overdose. Puis.
Qu'est-ce qu'il prenait, René?
Ah, un petit peu comme Whitney, là.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Pas mal les mêmes cocktails.
Une petite pellule.
Fait qu'à cause de René, la résistance n'a eu qu'un match de retour. On était supposé d'avoir une longue séquence sur SCW. On était supposé être les premiers champions par équipe de la SCW. Puis René m'a tout fucké ça. Fait qu'il m'a coûté un autre 400-500 000 cette année-là.
En parlant de 400-500 000, tu vas en faire un beau 400-500 000 avec ton nouveau DVD de The Rock.
J'ai hâte d'avoir les royautés au mois de mars.
J'ai pensé à toi quand j'ai vu le line-up du DVD.
Ah ouais?
J'ai dit, Sylvain va sûrement faire une coupe de pièces avec ça.
T'es pas game d'apporter ton chèque ici.
Mon chien, ben oui, je suis pas
j'aimerais
gêné.
Ça,
tu vas l'avoir dans quoi? Un an, Sylvain? C'est loin, les royautés, habituellement?
Non,
vous êtes une fois
à chaque
année?
3 mois, j'en ai.
À chaque 3 mois?
Ouais.
Je pensais que c'est une fois par année. Ou OK.
4 chèques par année.
Parce que je me rappelle, un des gars que t'avais apporté faire un try-out, il avait pris une photo du logo de la WWE sur son chèque, mais il a jamais voulu donner.
J'ai pris une photo, je me souviens d'un gros chèque que j'avais eu, puis je trouvais ça impressionnant, puis moi, le câble, j'avais été machine Corvette.
Corvette?
En 2005.
T'es donc bien mauvais goût.
On parlera pas de tes cheveux aujourd'hui, mais je suis content que t'en parles.
OK. Qu'est-ce qui se passe du côté de notre page? Parce que souvent, on parle à Patricia et puis elle nous parle.
Non, mais hey, je vais revenir avec les Blade Jobs parce que je dis souvent à mes élèves, je dis souvent à mes élèves, parce que c'est le fun, c'est avec des histoires comme ça, des fois, qu'on peut, que si la WWE le fait plus, il y a une raison.
Il y a une raison de commanditaire, je pense, plus, parce que dans son virage PG, je pense que c'était ça la
et
raison.
Et voilà.
Mais par contre, tu vois, puis je vais faire le lien avec ce que Patrice me demandait, Bertrand Hébert, justement, sur Facebook, nous donne un lien YouTube de Jimmy Snuka et Rhys Stevens, okay, qui avait été une feud,
ouais.
et qui, justement, la blade job qu'il avait eu à la télévision avait permis aux deux d'avoir une rivalité qui avait attiré un peu partout. Puis c'était un peu ça l'esprit de la blade
Là. Comme c'est Pat Patterson puis Surgeon Slaughter
quand elle est importante et elle a une raison d'être.
Hey, elle était
je suis
pas importante.
Aucunement d'accord.
Il était le troisième match avant la finale.
Ben ça, je suis d'accord.
Trop
c'est ça.
Imbécile pour se booker au moins en finale parce qu'après, quatre gars qui ont saigné, il n'y a plus rien qui va impressionner le monde.
Non.
Mais vu que c'est pas un bon booker, il est imbécile puis il sait pas. Il y a de la place pour un peu de sang.
Quand c'est booké, quand c'est bien buildé, tout ça, il y a Georges.
On l'a fait à TOW.
Ben oui.
Quelques fois. Et très rare.
Je m'en allais dire, t'as-tu déjà blédé, toi?
À TOW?
Oui. Ah,
jamais à la télé.
Par accident.
Il y a aussi Patrice Georges Morillas qui apporte une très bonne, très bon commentaire en disant, il y a une différence entre se coucher parce que le promoteur te le dit, et en fait de refuser de se coucher et de mettre ta santé en jeu.
Non, il a tout à fait raison.
Le gars,
c'est un promoteur-là, là, il a aucune assurance.
Non.
Fait que les gars qui se coupent, là, qui savent pas se couper, sûrement, premièrement, qui auraient pogné une jugulaire, là, pis là, il arrive à l'hôpital, pis là, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben là, j'étais dans un show d'hôte. Où ça? Il a envoyé la police. Le promoteur se fait arrêter. Le gars de la salle se fait arrêter. Le propriétaire du building se fait arrêter.
C'était dans un sous-sol d'église, en plus.
Dans un sous-sol d'église. Le prêtre se fait arrêter. Les sœurs, toute la kit, ils saisissent ses lampions. Bravo, CTW.
Wow, ça sonne. Je sais
pas si c'est un la CTW.
Mais,
les dons, je vais
répondre. Mais c'était ça mon point, en fait.
C'est le poulet.
C'est que. Marc Blondin, c'était ça mon point en fait, c'est que il y a une différence entre refuser de faire quelque chose que le booker ou le promoteur te demande question d'ego ou parce que bon t'aimes pas l'adversaire avec qui tu vas lutter et refuser de le faire pour
toujours,
ta santé.
T'as raison, puis je le dis toujours à mes élèves, puis j'ai vu mes élèves mettre leur santé en jeu avec des gens dangereux dans la reine, puis j'allais les voir, je me souviens un mané Bougli, t'es-tu descendu avec moi dans le bout de Valley
Field? Non, mais tu m'as à Saint-Chrysostome,
c'est ça? Exactement, il y avait eu un move dangereux, puis j'avais dit à Bougli, j'ai dit, tu sais, je suis pas content pour toi, le match était correct, mais parce que t'as accepté de faire ce move-là, t'as laissé cette personne-là te faire quelque chose d'unsafe.
Ça arrête pas de raccrocher quand je réponds. Je peux me répondre. TOW Radio Show.
Et voilà.
Mais, les gars, juste vous dire, il y a un commentaire de quelqu'un sur notre page Facebook qui dit que la personne en question, parce qu'il y en a un des quatre qui s'est blédé, celui qui a pris les aspirines, s'est blédé vraiment. Évidemment, il a saigné vraiment comme un
Ric Flair.
Et il dit, il s'est mal blédé. C'est pas la faute du promoteur. Il a voulu arrêter le combat, puis c'est le lutteur en question qui a voulu continuer. Fait que c'est pas toujours la faute du promoteur.
Mais
je pense que c'est la faute de l'arbitre. Attends.
Oui.
Ça, mais c'est la faute de l'arbitre.
Mais attendez une minute.
Dû arrêter le combat.
Attendez une minute. Que le match a eu lieu, puis ça a été un accident, je le comprends, ça. Il n'y a aucun problème. Mais
c'est quoi l'accident qui a pris un Red Bull avec des aspirines? C'est qu'il
a saigné plus que ce qu'il avait anticipé.
C'est pas un accident. C'est ce qu'il voulait.
Mais moi, ce que je lui reproche, c'est pas d'avoir continué le match, même pas de s'être blindé. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir tenté d'intimider le lutteur et de lui dire, tu fuck mon show, tu ruines mon show, en ne voulant pas lutter. Moi, c'est ça, je lui reproche par-dessus tout.
Hey, t'en as booké des matchs, là?
Oui.
On parle-tu de lutte psychologie, là, 101, là?
Let's go.
OK. Pourquoi 4 blade jobs d'un match?
Je sais pas.
J'ai jamais vu ça dans toute ma vie.
Faudrait chercher s'il y avait pas une stipulation. Mais même
c'est un match de chaîne. C'est un match de chaîne. Donc, nécessairement, tu t'attends qu'il y ait une blade. À la limite, okay. Pis, Sylvain, j'en ai déjà vu des matchs bien bookés avec plus qu'une blade.
Deux blades.
Mais c'était la finale du show.
Il y avait
une intermission après. Il y avait quelque chose qui faisait justement.
Il y avait deux tapis.
Il y avait des choses. Exactement.
Voilà.
Fait que c'est pas la faute du promoteur. Je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a beaucoup son blâme. Surtout.
Il était dans le match!
Surtout dans l'intimidation qu'il a voulu faire aux lutteurs par la suite.
C'est bon. Donc, on va s'arrêter au retour. On parle d'histoire. On va parler d'histoire de WrestleMania. Je sais pas si t'es au courant, Sylvain. On fait un tour historique concernant toutes les WrestleMania qu'il y a eu. Cette semaine, on fait 7, 8 et 9. C'est avec Bertrand
J'étais
et Hébert.
J'étais pas dans ceux-là, j'avais pas de royauté.
Non, je pense que t'écoutais plus la lutte, là. Tu commençais à découvrir tes aptitudes.
7, 8, 9, j'écoutais la lutte. J'ai lâché les alentours de 12.
12?
Bret Hart, Shawn Michaels.
Bon, moi, je pensais que t'allais dire que t'avais commencé à jouer à la bouteille, puis t'étais le champion de la bouteille. Non?
Non.
Ah, bon ben, le tabou y est cassé avec Sylvain Grenier.
Alors sur ce foie, on va à la pause, Patrice.
Non ben, parce qu'il me regardait pas là. C'est bon. Au retour, on parle avec Bertrand Hébert.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.